Hello, aujourd'hui j'ai quelque chose de très spécial pour toi. Quand on se lance dans l'illustration, on peut souvent se sentir perdu, dépassé. Et crois-moi, j'en sais quelque chose puisque je suis passée par là il y a quelques années. Aïe aïe aïe, c'était pas évident. Alors que tu sois sur le point de démarrer officiellement ton activité d'illustratrice ou que tu sois encore enlisée dans ton boulot actuel, dans mon guide de démarrage dans l'illustration, tu trouveras les 4 étapes indispensables pour bien démarrer ton activité. Définir ton projet, trouver ton pseudo, déterminer ton statut, instaurer une routine créative, etc. Ce guide te donnera toutes les infos utiles, mais également le coup de pouce dont tu as besoin aujourd'hui pour franchir rapidement les premières étapes. Si tu me connais un peu, tu sais déjà que rien de tel pour moi que d'être dans l'action pour faire face à la procrastination et au syndrome de l'imposteur. Pour télécharger ton guide et commencer à mettre en place ton projet d'illustration aujourd'hui, rends-toi sur elodie-illustration-avec-un-s.net/démarrer. elodie-illustration-avec-un-s.net/démarrer. Bonne écoute. Alors, ça peut paraître facile à dire, mais moi, je suis persuadée que nos propres limites, celles qu'on s'impose à nous-mêmes, elles régissent nos actions et le résultat de nos actions. Alors, je m'explique. Par exemple, moi, depuis que j'ai décidé de plus travailler le dimanche, c'est comme si mon cerveau, en fait, il avait commencé à trouver des solutions pour s'organiser autrement. Et aujourd'hui, comme je vous disais, donc je travaille plus le dimanche, sauf vraiment cas exceptionnel. Et aujourd'hui, c'est devenu un privilège auquel j'ai plus du tout envie de renoncer. Vraiment, aujourd'hui, je me suis habituée à me dire, bon, bah, il faut tout terminer samedi, dernière heure, quoi. Parce que le dimanche, c'est religieusement un jour de repos. Et voilà, j'ai intégré ça, mon corps a intégré ça, mon cerveau a intégré ça. Et maintenant, j'arrive à me dégager ce temps-là. Et ce, même quand je suis vraiment dans des périodes chargées et des périodes de rush. Mais je suis vraiment intimement persuadée que c'est parce que je l'ai décidé que je me suis contrainte à adopter cette règle et que j'en ai fait une habitude que maintenant, aujourd'hui, j'arrive à m'y tenir.
Bonjour à tous et bienvenue sur Illustration de Podcast, un podcast dédié à tous les artistes passionnés qui rêvent de faire leur place dans le monde de l'illustration. Donc si c'est ton cas, bienvenue à toi. Je m'appelle Elodie, je suis illustratrice, éducatrice et je vis avec mon chien Lennon entre Paris et l'île d'Oléron. Je me suis lancée en 2010 dans l'illustration et après avoir travaillé dans l'univers de la mode, de la beauté, de l'édition et j'en passe, en 2017, je me suis donnée pour mission d'être un petit peu comme votre grande sœur pour vous transmettre un petit peu ce que j'avais appris sur le terrain, notamment grâce à mes agents, pour vous donner les clés, les outils, la confiance qui vous permettra de gagner en visibilité et faire votre place dans le milieu de l'illustration. Dans ce podcast, je partage des mini plans d'action applicables immédiatement pour t'aider à développer ton activité et générer rapidement des revenus de tes créations. Et je partage aussi de la motivation, du soutien et des clés pour t'aider à te sentir plus légitime dans ton travail, parce que je sais qu'on en a terriblement besoin quand on est artiste. Ma devise, on apprend mieux quand le contenu est méthodique et quand le format est beau. Un petit peu comme avec les cahiers de vacances, et c'est la promesse que je te fais à travers tous mes contenus. Alors si tu es créative et que tu as de grands rêves, tu es au bon endroit. C'est parti!
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour un nouvel épisode d'illustration de podcast. Moi c'est Elodie et aujourd'hui je vais vous parler de rush. Alors qu'est-ce que c'est qu'un rush? Si vous n'êtes pas familier avec ce terme, c'est le principe d'avoir beaucoup de choses à faire, notamment d'avoir beaucoup de deadlines importantes et serrées en très peu de temps. Alors ne pas confondre une période chargée et une période de rush. En gros, une période chargée, c'est une période où on va avoir beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à penser. Mais ça va encore rentrer, si vous voulez, dans une semaine de travail normale. On peut très bien avoir une grosse charge de travail, mais la faire à notre rythme. On peut très bien être très occupé, mais travailler dans un rythme normal. Alors qu'une période de rush, en fait, si vous voulez, c'est régi par des deadlines à respecter et qui vont nous obliger à travailler dans l'urgence, donc plus rapidement que d'habitude, plus rapidement que notre rythme naturel. Et donc forcément, ça va générer beaucoup de stress. Alors bien sûr, dans un monde idéal, on aimerait tous ne pas avoir à vivre de périodes de rush. Mais malheureusement, le fait est que parfois c'est inévitable, et ce même avec tous les outils de planification et d'organisation du monde. Et aujourd'hui, je vais pas vous parler de planification, justement, je vais pas vous dire « Ah bah tiens, pour éviter les périodes de rush, il faut bien s'organiser, etc. etc. » Notamment parce que j'ai parlé déjà de planification il y a quelques temps, dans l'épisode 56, où je vous parlais de rétro-planning. Mais aussi parce que si vous écoutez cet épisode, c'est peut-être parce que vous êtes déjà dans le rush et l'idée c'est pas de vous faire culpabiliser mais de vous aider à gérer au mieux cette période de rush. Donc à la fois pendant, donc c'est peut-être en ce moment pour vous, mais aussi après. Parce qu'il va y avoir un après, croyez-moi, ça va pas être joli joli, mais c'est inévitable. Alors, pendant la période de rush, alors vous êtes peut-être déjà en plein dedans, peut-être que vous m'écoutez en train de faire, je sais pas moi, un truc qui demande pas à votre cerveau d'être pris, Alors, si vous êtes dedans, le premier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de vraiment d'être un requin avec vos jours de congé. En période de rush, si vous êtes comme moi, votre premier réflexe, ça va être de vous dire « Bon, bah c'est bon, je vais pouvoir rattraper un petit peu en bossant ce week-end, tant pis, voilà. » Mais ça, c'est un peu le piège, si vous voulez. Parce que quand on commence à rentrer là-dedans, bah après, c'est difficile de se défaire de cette nouvelle manne de temps additionnel qu'on a récupéré, si vous voulez. On s'habitue, notre cerveau s'habitue. Et en fait, après, ça devient comme un acquis. Et après, c'est difficile de revenir en arrière. Donc moi, mon conseil... En période de rush, c'est vraiment de garder au moins un jour de libre par semaine où vraiment vous allez pas travailler du tout, où vraiment vous allez prendre le temps de couper avec le travail, de vous détendre, de faire des choses qui vous plaisent, etc. Alors moi, personnellement, c'est le dimanche que je travaille jamais, que j'essaye vraiment de conserver religieusement. Et depuis le début de l'année que je me suis instauré cette règle, il a dû m'arriver, allez, 3 ou 4 dimanches dans l'année où j'ai travaillé. Vous voyez que c'est pas parfait, mais quand même. Et franchement, croyez-moi que ça fait une grosse différence avec avant où j'avais pas de règles, je pouvais très bien travailler le dimanche si j'avais besoin. Si malgré vos efforts, ça vous arrive vous aussi de rogner sur votre fameux jour de congé, quand je dis un jour de congé, évidemment, si vous en avez 2, c'est encore mieux. Mais voilà, là on part du principe que vous êtes vraiment dans le rush et que vraiment c'est tendu. Donc si vous arrivez pas, malgré vos efforts, à conserver ce jour de congé dans votre semaine, la règle d'or, et là c'est très important que vous reteniez bien cette règle, c'est de ne jamais faire 2 fois la même erreur. C'est-à-dire que si vous loupez un dimanche, qu'un dimanche vous êtes obligé de bosser, bah faites en sorte que le dimanche d'après, vous bossiez pas. D'accord ? C'est vraiment très important parce que quand on manque son habitude 2 fois de suite, et en fait c'est comme ça que ça se crée une habitude, c'est à force de répétition, et à partir de 2, vous allez commencer à instaurer une nouvelle mauvaise habitude. Donc faites très attention à être vraiment un requin avec vos jours de congé. Deuxième conseil, limitez la caféine et tous les excitants en général. Je dis la caféine parce que moi, c'est ma drogue. Et si vous êtes comme moi, bah, vous me comprendrez, mais peut-être que vous, votre drogue, c'est le thé, par exemple. Peu importe, dans ces moments de travail intense et de stress, d'urgence, etc., en général, le stress, il est déjà là pour vous tenir en éveil, si vous voulez. Donc, vous n'avez pas forcément besoin en plus d'excitants, si vous voulez. Donc, même si vous êtes accro au café comme moi, je sais que je peux pas fonctionner sans. Essayez dans ces moments-là, voilà, de réduire la caféine. Par exemple, vous pouvez vous dire, ok, j'arrête la caféine l'après-midi. J'en bois que le matin et l'après-midi, j'en bois pas du tout. Même si ça vous demande un petit effort, franchement, ça va être bon pour vous, pour votre corps, pour la gestion du stress, etc., etc. Ou alors vous vous dites, tiens, bah après, je sais pas moi, 14 ou 15 heures, voilà, j'arrête de boire du café. Un petit peu comme les gremlins, vous savez, où il a pas le droit de les nourrir après une certaine heure, sinon c'est la cata. Bah là, ça peut être la même chose, si vous voulez. Enfin, moi, je sais qu'après 15 heures, si je bois du café, bah je dors pas, quoi. Donc, je sais pas pour vous, mais voilà. Donc, essayez quand même de réduire un minimum la caféine, la théine, enfin, tous les excitants possibles en période de rush, c'est vraiment très important. Troisième conseil, la durée du rush. Attention, moi je pense vraiment qu'un rush, il faut pas que ça dure plus de 2 semaines. Votre corps, il est pas capable d'ingérer tout ce stress, de gérer toute cette tension pendant plus de 2 semaines. Voilà, 2 semaines, je trouve que c'est vraiment le maximum. De toute façon, au bout d'un moment, votre corps, il va faire stop. Il va débrancher tout seul. Alors ça peut paraître facile à dire, mais moi je suis persuadée que nos propres limites, celles qu'on s'impose à nous-mêmes, elles régissent nos actions et le résultat de nos actions. Alors, je m'explique. Par exemple, moi, depuis que j'ai décidé de plus travailler le dimanche, c'est comme si mon cerveau, en fait, il avait commencé à trouver des solutions pour s'organiser autrement. Et aujourd'hui, comme je vous disais, donc je travaille plus le dimanche, sauf vraiment cas exceptionnel. Et aujourd'hui, c'est devenu un privilège auquel j'ai plus du tout envie de renoncer. Vraiment, aujourd'hui, je me suis habituée à me dire, bon, bah, il faut tout terminer samedi, dernière heure, quoi. Parce que le dimanche, c'est religieusement un jour de repos. Et voilà, j'ai intégré ça, mon corps a intégré ça, mon cerveau a intégré ça. Et maintenant, j'arrive à me dégager ce temps-là. Et ce, même quand je suis vraiment dans des périodes chargées et des périodes de rush. Mais je suis vraiment intimement persuadée que c'est parce que je l'ai décidé, que je me suis contrainte à adopter cette règle et que j'en ai fait une habitude, que maintenant, aujourd'hui, j'arrive à m'y tenir. Donc, c'est pareil pour la période du rush. Dites-vous que le rush, ça va durer 2 semaines, que vous ne pourrez pas tenir plus. Donc, si vous êtes dans un rush, partez de ce principe-là. Vraiment, c'est important. Et ensuite, après ce rush, il va falloir vous détendre. Mais ça, on va en parler après. Quatrième règle, en période de rush, c'est de faire attention aux distractions. Et là, je suis vraiment... c'est pareil, il faut être un requin avec les distractions, parce que même quand on est dans une période de rush, notre stress, il peut nous faire réagir bizarrement. C'est-à-dire que plutôt que d'affronter le travail, parfois, on va avoir tendance à procrastiner ou avoir tendance à prendre son téléphone pour essayer de... comme un doudou, voilà, pour essayer de se réfugier dans quelque chose de gratifiant au lieu de travailler, histoire d'oublier un petit peu son anxiété. Donc attention vraiment à ça, attention aux distractions plus que jamais. C'est important en général de faire attention à ce que votre temps ne soit pas bouffé par des choses extérieures. Mais là, en période de rush, c'est encore plus important parce que votre santé en dépend, votre sommeil en dépend, votre sérénité en dépend. Donc vraiment, soyez vraiment un requin par rapport aux distractions. Mettez-moi ce téléphone en mode avion, mettez-le dans une autre pièce ou mettez-vous des règles très très strictes pour regarder votre téléphone, parce que dans ces périodes-là, il faut être efficace et vraiment aller à l'essentiel. Moi personnellement, je me surprends souvent à le faire de façon automatique, d'attraper mon téléphone parce que je suis en train de faire un truc pénible, parce que j'ai envie de me sortir un petit peu de ce stress, et voilà, encore une fois, c'est un côté réconfort, doudou, mais ça nous fait perdre du temps, donc il faut vraiment s'en prémunir. Ok, donc ça c'était pour la période de rush. J'ai l'impression de parler aussi vite que si j'étais en rush, justement, parce que c'est quelque chose que je vis là en même temps que vous. Là, si vous êtes en période de rush, bah voilà, je suis avec vous et je vous comprends, et vous êtes pas seul. Ok, alors après la période de rush, comme je vous ai dit, il va vraiment falloir faire de votre sommeil une priorité. Moi, ce que j'ai remarqué souvent, c'est que après une période de rush, souvent, c'est comme si on était en train de courir un marathon et que pouf, une fois arrivé, vous savez, on vous arrêtait pas net. Vous êtes toujours en train de courir un petit peu, et puis bah jusqu'à ce que vous ralentissiez, etc. Et ça, je trouve que ça prend un certain temps. Moi, je compare ça beaucoup, cet état de stress, à un animal, vous savez, qui est en danger. Moi, personnellement, c'est un peu comme ça que je le ressens quand je suis vraiment en stress et que j'ai le cœur qui bat, etc. Enfin bref, c'est pas joli, joli. J'ai l'impression que c'est comme quand on a subi un danger, bah après, on retrouve pas tout de suite la sérénité derrière. Bah, moi, je trouve que c'est un petit peu ce qui se passe après une période de rush intense. Donc à ce moment-là, parfois, c'est pas forcément tout de suite qu'on va retrouver un sommeil reposant, ressourçant, etc. Donc moi, je vous conseille de faire de votre sommeil une priorité, par exemple en essayant de vous coucher plus tôt ou en utilisant des choses pour vous aider. Alors, je vous parle pas de médicaments, mais moi, je sais qu'on m'a conseillé la mélatonine, notamment parce que je me réveillais souvent en pleine nuit, toutes les 2-3 heures, et c'était insupportable. Aussi parce que parfois, j'avais le réflexe de prendre mon téléphone, parce que j'avais envie que ma journée commence, etc. Parce que bah le stress vous donne envie de vous dire « Allez, c'est bon, là, je me lève, quoi !» Ben non, non, il faut dormir, quand même. Donc voilà, moi, j'ai été dans une pharmacie, on m'a conseillé donc de prendre la mélatonine sous forme de comprimé, voilà. Alors ensuite, je sais qu'il y a les fleurs de Bac sous forme de spray, qui sont très bien pour pouvoir dormir. Il y a plusieurs... là, je me souviens plus, ça doit être fleurs de Bac spécial sommeil. Je l'ai plus, là, j'en avais avant et je l'ai terminé, mais vous pouvez acheter ça en pharmacie, c'est naturel. Et mon amie et assistante Laetitia m'a parlé d'un médicament à base de tilleul, d'extrait de bourgeon de tilleul, qui lui a été recommandé pour sa fille qui est jeune. Et donc c'est aussi un produit naturel. Donc peu importe, si vous avez besoin d'outils extérieurs, j'ai envie de dire, pour vous aider à retrouver le sommeil, n'hésitez pas, quoi. Franchement, c'est important. Et le sommeil, ça fait quand même beaucoup... sur son mental, sur notre bien-être, etc. Donc c'est vraiment très important de faire en sorte de bien soigner son sommeil à ce moment-là. Deuxième conseil, c'est de s'écouter. Parce que après une période de rush, bien souvent, si vous êtes comme moi, vous allez avoir tendance à avoir envie de rien faire. Parce que là où tout était urgent, tout était important, etc. Pendant votre période de rush, après la période de rush, tout va vous sembler beaucoup moins important, beaucoup moins urgent. Donc... moi, je sais que après une période de rush, je peux avoir tendance à me dire, mais à quoi bon, quoi? Et d'avoir des grosses baisses de motivation, des grosses baisses d'envie. Enfin, voilà, c'est souvent compliqué. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, essayez de vous laisser porter, essayez de vous autoriser à décaler des choses aussi. Parce que si vous êtes plus en période de rush, normalement, vous allez pouvoir décaler des choses. Tout n'est plus aussi urgent qu'avant. Donc, essayez de le faire si vous en avez la possibilité. Essayez de faire des activités aussi qui vous font du bien. Et je vous conseille pas forcément comme ça peut être le réflexe premier, de rien faire ou de regarder Netflix. Parce que personnellement, moi, je trouve que même quand je suis très fatiguée et que voilà, j'ai envie de rien faire a priori, je trouve que de regarder Netflix, en fait, ça me fait culpabiliser encore plus. Parce que rien faire, c'est pas forcément ce qui va recharger le plus nos batteries. Alors dormir, oui, ça, je suis vraiment, oui, je suis partie prenante pour le sommeil et pour dormir, ça, oui. Mais par contre, une journée à rien faire, je pense que c'est pas forcément bon pour notre bien-être, pour notre santé mentale, etc. Parce qu'on va tendance à culpabiliser, à déprimer, etc. Mais par contre, éventuellement faire du journaling, faire des activités un peu méditatives comme un puzzle, enfin des choses un peu slow, vous voyez. Ça, je pense que ça peut être bien. Alors après, si c'est pas votre truc, encore une fois, essayez de trouver des activités qui vous procurent du plaisir. Ça peut être faire de la cuisine ou vous promener, aller voir une expo, enfin peu importe. Dans son livre « Week-end heureux, week-end paresseux » que j'avais lu il y a quelques temps, qui est très intéressant et que je vous suggère d'ailleurs, je vous le mettrai en description de cet épisode. L'autrice a étudié la meilleure façon de passer son week-end pour être plus heureux, plus heureuse, et elle conseille de faire plusieurs choses. Donc elle a vraiment classé les choses à faire pour être plus heureux. La première chose, c'est de se connecter avec des gens qu'on aime. La deuxième chose, c'est de pratiquer l'altruisme. Par exemple, faire du bénévolat, aider sa communauté, sa famille, ses amis, etc. Troisième chose, jouer, pour retrouver un petit peu l'enfant qui est en nous. Quatrième chose, faire le choix de la nature, aller en forêt, sur la plage, ou que sais-je. Cinquième chose, rechercher la beauté, aller voir une exposition, aller voir des décorations de Noël, émerveillez-vous. Sixième chose, ralentissez le rythme et ralentissez la pression, donc faites moins de choses, arrêtez de mettre trop de choses sur votre to-do list, écumez votre to-do list, faites moins de projets, faites moins de choses en général, faites tout moins. Flânez, laissez-vous porter encore une fois. Donc voilà, pendant la période de rush, soignez votre sommeil, écoutez-vous. Et troisième conseil, débranchez la prise. Prévoyez vraiment un ralentissement, voire un week-end ou des petites vacances si vous pouvez, parce que parfois ça peut être juste un petit week-end en famille ou chez des amis, quelque chose qui coûte pas grand-chose si vous voulez. Mais par contre, le fait de changer de contexte, bah ça permet vraiment de couper parfois. Parce que si vous êtes toujours près de votre ordinateur, près de votre lieu de travail, bah parfois c'est un peu compliqué de couper. Donc l'idée, c'est vraiment de faire une pause mentale et physique avec le travail, pour vraiment forcer votre cerveau à décrocher. Je reprends un peu cet exemple de la course effrénée, où le cerveau, en fait, a du mal à se dire que c'est terminé. Il a dit, c'est bon là, c'est vraiment terminé. Donc, en quelque sorte, il faut vraiment débrancher la prise de façon radicale. Parfois, ça peut vraiment aider à forcer le corps à récupérer, à forcer son cerveau à se dire stop, et à forcer la réparation de son sommeil, de son esprit, etc., etc. Je vais vous donner un exemple. Moi, je sais que je dors pas beaucoup. À Paris, je dors... Franchement, entre 4h et 6h en ce moment, hein, parce que je suis dans une période assez chargée. Mais je sais pas, voilà, j'ai du mal à récupérer. Mais par contre, je sais que quand je vais chez mes parents, bah parfois il peut m'arriver de dormir jusqu'à 15h. Ça m'est arrivé l'an dernier pendant les fêtes, où je me suis réveillée à 15h de mon premier de l'an, alors qu'on n'avait pas... voilà. Parce que je pense que vraiment, bah déjà il fait nuit noire, c'est bête, hein, mais à Paris il fait jamais nuit noire. Et ça, c'est vraiment un facteur aggravant, j'ai envie de dire, pour le sommeil. Mais aussi parce que ben voilà, on arrête un petit peu cette pression et on débranche quoi, on débranche la prise quoi, tout simplement. Donc si vous avez la possibilité de le faire, débranchez la prise après un rush, c'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner pour vous aider à bien récupérer. Alors si vous pouvez pas du tout vous arrêter, même ne serait-ce que quelques jours, prévoyez au moins un gros ralentissement de rythme. Moi, je sais que maintenant, à chaque fois que j'ai un gros projet qui sort, je me dis mentalement que 2 semaines après, je vais être en état de ralentissement total et que j'aurais pas envie de bosser au même rythme que d'habitude. Donc, c'est quelque chose que j'ai intégré. Donc voilà, essayez de prendre ça en compte. C'est vraiment très important. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et si vous l'avez écouté d'une oreille alors que vous êtes en période de rush ou juste après, j'espère qu'il vous aidera à trouver un peu de paix dans tout ce chaos. Et n'oubliez pas que cette situation est temporaire, que c'est un passage et que la sérénité reviendra bientôt. Je sais que quand on est en plein dedans, on a l'impression que ça va, qu'on n'en voit pas le bout. Mais l'après existe et c'est pour bientôt. Donc comme d'habitude, j'ai hâte d'avoir votre retour à ce sujet. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des périodes de rush? Et si oui, comment vous les gérez? Quels seraient vos conseils dans ce genre de situation? Si vous avez des conseils supplémentaires à partager avec nous, vraiment, je serais ravie de les lire. Et vous pouvez les laisser comme d'habitude en commentaire de l'article de cet épisode sur le blog dans la rubrique podcast. La semaine prochaine, j'aurai l'honneur de recevoir l'illustratrice Dive, qui est l'autrice des aquarelles surprises. Donc, j'ai hâte de pouvoir partager cet épisode avec vous. Pour l'heure, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Prenez soin de vous. Bye bye.